Plus récente pièce de Marat Tremblay tirée de son album Cassiopée, c'était la pièce Mon chéri.
Nouvelle culturelle dans le Nouvelliste, d'abord et avant tout, le musée québécois de culture populaire n'est plus « Vive le musée pop ». C'est Mathieu Lamotte qui signe cet article. Le lieu consacré à la culture québécoise sous toutes ses formes a en effet pris un virage à 180 degrés. En ce qui a trait à son appellation ainsi qu'à son image de marque, comme le Nouvelliste l'a révélé il y a quelques semaines, les dirigeants du musée situé à l'intersection des rues La Violette et Art au centre-ville de Trois-Rivières planchaient bel et bien sur cet important projet et avaient confié le mandat de création à la firme trifluvienne Acolyte. L'annonce a été faite en fin d'après-midi, mardi, donc hier. Le but avoué de ce changement est d'adopter une attitude plus simple, plus moderne et plus percutante sans revoir le fonctionnement ou la mission de l'endroit. De plus, il semble que des études relatives au positionnement stratégique de l'institution qui ont été effectuées par l'Université du Québec à Trois-Rivières ont permis de constater que le nom précédent était long et difficile à retenir. Même moi, j'étais mêlée au début. De plus, il n'était pas tout à fait représentatif d'où on voulait aller et de ce que nous voulons offrir à notre clientèle, explique la directrice générale du musée, Valérie Terrien. Un nom qui est efficace en termes commerciaux, d'approche, de mémorisation et de notoriété, ça se veut court, actuel et distinctif. Et ça devait être évocateur de la mission du musée, poursuit un des concepteurs ayant travaillé sur ce projet, Denis Roy. On va mettre un accent particulier sur le pop, car les gens ont tendance à raccourcir. Au final, les gens vont l'amener à sa plus simple expression, fort à parier que pop va supplanter musée dans le langage populaire, poursuit M. Roy. Ce renouveau ne se limite pas au logo et au nom. Le site Internet a également été complètement revampé et sera opérationnel pour la prochaine saison touristique. Il sera doté d'une nouvelle adresse www.museepop.ca et la nouvelle image de marque y sera évidemment présente. Marie-Mé, alors c'est un article d'Émilie Côté, le grand retour de Marie-Mé. Un nouveau label, une nouvelle agence de spectacle et un nouvel extrait d'un sixième album qui sortira le 28 septembre, dont on vous faisait entendre chanson tantôt. C'est Jean-Sébastien Laliberté qui a mis cette chanson, pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûre. Alors Marie-Mé a fait plusieurs annonces hier au Centre Bell. La presse a aussi eu la chance d'assister avant-hier au tournage du clip de la chanson Empire, Tour d'horizon. Alors, une citation d'abord de Marie-Mé. « Je voulais être au centre de ce que je fais, que tout parte de ma vision, prendre plus d'autonomie. » Marie-Mé a fait les choses en grand hier pour dévoiler les changements apportés à sa carrière. C'est sur le parterre du Centre Bell, avec d'immenses projections, qu'elle a annoncé son union avec la famille Spectra Evenco. Spectra sera sa maison de disques alors qu'Evenco produira ses spectacles. Marie-Mé a aussi dévoilé une nouvelle chanson, Empire, et la tenue d'un spectacle au Centre Bell le 15 février 2019. Enfin, a lancé Marie-Mé en ouverture, par où commencer? Je m'appelle Marie-Mé, j'ai 33 ans, je suis une maman et je suis une auteure-compositrice-interprète. Au cours des deux dernières années, l'artiste a vécu le grand bonheur d'être mère, mais aussi la plus grande remise en question artistique de sa vie. Est-ce que j'ai encore envie de faire cela? S'est-elle demandé. J'ai senti un déséquilibre entre qui j'étais comme personne et ce que je faisais musicalement et sur scène. Je voulais m'épanouir. En janvier 2016, Marie-Mé a annoncé que Fred de Saint-Gelais et elle mettaient fin à leur union. Le couple était aussi un tandem créatif. Je me suis séparée et c'est une chose, mais ceux qui m'ont fait perdre confiance en moi, ce sont les gens qui disaient « Mais que va-t-elle faire maintenant? » raconte Marie-Mé. « Comme si je n'étais pas une auteure, compositrice, interprète. Je fais ce métier-là depuis 15 ans et des gens pensent que je ne suis pas capable d'écrire des tunes. Cela m'a beaucoup échaudée, poursuit-elle. Alors que cela allait moins bien, des gens parlaient de moi comme si je n'existais pas. Je sentais que ma vie ne m'appartenait plus, avec une image faussée de moi. En 2017, Marie-Mé, en couple avec le directeur musical David Laflèche, a connu les joies de la maternité. J'étais tellement bien avec ma fille à vivre du gros bonheur que je me disais « Mais est-ce que j'ai envie de replonger? » La réponse s'est avérée positive. Mais si je revenais, je n'allais pas le faire à moitié. Marie-Mé a d'abord décidé de quitter les productions J, boîte fondée par Julie Snyder, qui la représentait depuis sa sortie de Star Academy en 2003. J'ai dit à Julie « Toi, tu l'as fait. Ouvrir ta boîte, devenir le capitaine de ton bateau. Moi aussi, j'ai envie de faire ce move-là », raconte Marie-Mé. Quand Marie-Mé a annoncé en mars dernier qu'elle volait de ses propres ailes, elle a reçu des tonnes d'offres. Quand le téléphone s'est mis à sonner, je me suis sentie appréciée et à ma place. J'ai eu des appels de grandes maisons de disques, mais aussi de boîtes plus émergentes. J'ai trouvé cela vraiment cool. J'ai senti que j'avais l'appui de l'industrie. Pourquoi Evenco et Spectra? Il s'agit d'une famille, rappelle Marie-Mé. Le promoteur Evenco et Spectra sont deux entités sous la propriété du groupe CH. Le premier a produit les spectacles de Marie-Mé au Centre Bell. Les gens chez Spectra sont vrais. Avec eux, la première chose qu'on a faite, c'est d'écouter mes chansons. On n'a pas parlé de stratégie. Il y a quelque chose de flamboyant autour de moi. On dit que je suis une bête de scène et c'est une réputation que j'aime avoir. Mais au-delà de la fille maquillée, il y a une fille qui écrit ses tunes. Écrire, c'est la chose la plus libératrice pour moi. C'est là que je me sens le plus en vie. Tout part de mes chansons. Bien entendu, Spectra et Evenco sont ravis. C'est jour de fête chez Evenco, a déclaré hier Jacobé, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, à Marie-Mé. Bienvenue chez nous, mais surtout chez vous. Nous avons une seule mission, c'est de porter tes mots et ta musique, a ajouté Jacques-André Dupont, PDG de Spectra. Marie-Mé a ouvert la porte à de nouveaux collaborateurs, à commencer par un réalisateur. L'heureux élu, le Britannique établi à Berlin, Oliver Somme, qui a travaillé avec les Louise Attac et James Blunt. Il ne parle pas français, ce qui m'a permis d'aller plus loin, dit-elle. Marie-Mé a rencontré Oliver Somme lors d'une séance d'écriture à Los Angeles. Lui, il s'en foutait de ce que j'avais fait par le passé. Nous avons fait de la musique sans compromis. Il ne connaissait pas mes chansons d'avant. Il me disait « Aujourd'hui, qu'as-tu envie de faire? » La presse a pu écouter plusieurs nouvelles chansons de Marie-Mé, dont l'extrait « Empire » lancé hier. Premier constat, la star garde les deux pieds dans la pop. « La pop, c'est qui je suis », lance-t-elle. « Il n'y a même pas de guitare sur mon nouvel album. » Marie-Mé ne s'est pas laissée influencer par la mouvance R&B, et Trap, ça fait deux fois que je fais cette erreur-là. Ces nouvelles chansons ont un caractère introspectif et des arrangements racés à la Robin. C'est un album très au jeu. Je suis transparente sur ma rupture, sur des choses qu'on m'a dites, sur comment je vois l'industrie. Je me suis mise à nu, détaille-t-elle. L'album raconte le cheminement de la chanteuse depuis 2 ans, le fait de me sentir perdue, de me rebâtir avec mon cœur de femme et d'artiste, de redécoller, d'exister, précise-t-elle. Marie-Mé n'a pas songé à co-écrire et à co-réaliser ses nouvelles chansons avec son amoureux David Laflèche comme elle le faisait avec Fred Saint-Gelais. Je ne voulais pas retomber dans ce pattern-là, mais je trouve cela hyper important de l'avoir dans mon équipe pour m'épauler. David Laflèche, directeur musical depuis 25 ans, se trouve plutôt à être le deuxième regard de Marie-Mé. Je l'invite à voir les choses sous plusieurs angles, explique-t-il. Et j'approuve tout derrière elle. Je suis un gars assez pragmatique. J'assure, en quelque sorte, le contrôle de la qualité. La communauté salue une chanteuse généreuse et fragile. Morane, qui a été retrouvée sans vie lundi à son domicile, avait un lien privilégié avec le Québec. Quelques personnalités interrogées par la presse ont salué la mémoire de la chanteuse belge morte à 57 ans. C'est un article dans la presse de Véronique Lauzon. Louise Forestier s'est liée d'amitié avec Morane en 1986 lors d'une tournée hommage à Jacques Brel. Les deux femmes qui avaient interprété par le passé le rôle de Marie-Jeanne dans deux productions différentes de Starmania avait même présenté un spectacle en duo lors de la première édition des Francofolies de Montréal. Les Québécois l'ont adoptée rapidement parce qu'elle avait quelque chose de très authentique. Ce n'était pas l'européenne sophistiquée et maniérée. Et elle ne chantait pas comme une Lolita. Elle chantait comme une femme. Et nous aimons ça du monde costaud au Québec, a expliqué Louise Forestier. L'auteur-compositrice-interprète québécoise se souviendra de son amie comme de celle qui pouvait tout chanter, même du blues, et des chansons en russe ou en québécois sans accent. Malgré le fait que Morane ait été pour de nombreux fans un soleil, Louise Forestier parle d'une femme qui avait aussi ses zones d'ombre et qui était extrêmement fragile. C'était de la terre cuite, Morane, de la céramique. Souvent, les grands artistes comme elle, c'est soleil et ombre, noir et blanc, mort et vivant. Et c'est pour ça que lorsqu'elle chantait, elle était si captivante, dit Louise Forestier. En 2012, toujours aux Francofolies de Montréal, Morane avait chanté ses plus grands succès entourés d'invités comme Michel Fugain, Daniel Lavoie et Isabelle Boulay. Ce spectacle a été immortalisé sur Morane Live. Antoine Graton était un des invités de la chanteuse belge lors de ce concert. Il a également fait les premières parties de Morane en France, en Suisse et à Monaco. Elle m'a permis, entre autres, de faire mon premier et unique Olympia de Paris. C'était une femme d'une générosité extrême. Et quelle voix! La première fois qu'on a chanté ensemble, elle a tout de suite senti ma nervosité. Elle m'a pris par la main et j'ai tout de suite senti que j'étais en présence d'une grande musicienne et surtout d'une grande âme, a dit Antoine Graton. Michel Fugain est à Montréal pour 3 spectacles à la Place des Arts. Hier soir, il a rendu hommage à celle qu'il considère comme un membre de sa famille en interprétant sa chanson « Mes précieux souvenirs ». Parce que malheureusement, nous devons maintenant ranger Morane dans la case souvenir, a dit l'artiste français. Morane, elle vient chez nous à la maison et nous ne savons pas quand elle va partir. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ma famille. Et je ne dis pas encore c'était ma famille, je ne peux pas. Une vague de témoignages d'amour et de tristesse a envahi les réseaux sociaux. Certaines personnes s'interrogent notamment sur la cause de la mort de l'artiste. À ce propos, les résultats de l'autopsie ne seront pas connus avant plusieurs semaines.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évante d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dom, dom, dom. Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dom, dom, dom. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aimant dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh, j'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas. je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque l'âme, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces. Sans les jeux de baise à la ramasse, il me manque ce petit tac de sursoir pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui code, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Eddie de Preto et la pièce Random.
Alors, allons-y avec les sujets libres dans la section Opinion sous la plume de Nadia El Mabrouk, Idéologie queer, la nouvelle religion. Nadia El Mabrouk est professeure d'informatique à l'Université de Montréal. In queer we trust est le message que je peux lire tous les jours sur un autocollant à la porte de ma station de métro. Et si c'était une religion? Cela expliquerait la déferlante de messages virulents que j'ai reçus après ma chronique sur l'identité de genre afin de parfaire mon éducation sur le sujet. Le sexe serait un continuum d'état sur le spectre de l'arc-en-ciel. Il ne serait pas constaté, mais assigné à la naissance, des personnes seraient nées dans le mauvais corps, il y aurait des femmes avec un pénis et des hommes qui accouchent. Toute objection est déclarée transphobe. En clair, l'idéologie queer est une orientation politique dont l'objectif est de nier la binarité des sexes. La notion de femme et d'homme serait une question d'identité de genre, autrement dit de ressenti, et non de sexe biologique. À qui profite cette déconstruction des concepts? Certainement pas aux femmes victimes d'inégalités sociales liées à la maternité, ni à celles aux prises avec des traditions patriarcales qui les aliènent sur la base de leur sexe. C'est pourtant ce nouveau paradigme qui, sans qu'aucun débat public n'ait eu lieu, imprègne les discours politiques et les orientations gouvernementales. Il est à l'origine du remplacement de la notion de sexe par celle de genre dans les documents officiels. Dernièrement, c'est Statistique Canada qui annonçait le remplacement de la variable sexe par la variable genre que ressent intimement une personne selon où elle se positionne sur le continuum de l'identité du genre. On croit rêver. Comment une institution aussi essentielle pour la démocratie pourra-t-elle baser ses enquêtes sur une dimension des plus floues et des moins scientifiques plutôt que sur une donnée objective? Comment le gouvernement compte-t-il remplir ses engagements de mesurer les écarts de salaire, d'employabilité ou de conditions de vie entre les hommes et les femmes, des données essentielles pour atteindre l'égalité? Pour ce qui est du continuum de genre, les formulaires de Statistique Canada offriront-ils la panoplie des identités que promeuvent les militants de la cause trans, soit transsexuels, transgenres, hommes et femmes trans, genre fluide, genre variable, travesti, sans genre, genderfuck, bispirituel, etc.? Cette idéologie qui a déjà largement pénétré la sphère politique se retrouvera-t-elle à l'école? L'instauration au Québec d'un cours qui permette aux enfants d'intégrer une vision saine de la sexualité et de les prémunir contre les agressions sexuelles est une excellente nouvelle. Mais les parents doivent être informés du contenu du cours, du matériel pédagogique et des intervenants. Leurs craintes sont légitimes. En Colombie-Britannique, par exemple, le ministère de l'Éducation a instauré le programme Orientation sexuelle et identité de genre, SOGI ou SOGI, qui, sous couvert de lutte contre la discrimination, intègre le vocabulaire transgenre. D'ailleurs, le jumelage qui est toujours fait entre l'orientation sexuelle et le discours trans ne risque-t-il pas de créer un ressac contre la nécessaire lutte contre l'homophobie? C'est pour manifester leur opposition à de tels programmes que des parents aux États-Unis, en Australie et au Canada ont retiré leurs enfants de l'école le 23 avril dernier. Au-delà des raisons religieuses de certains parents, une grande partie de la contestation concerne un matériel pédagogique développé par des militants de la cause trans. C'est le cas du site SOGI, financé entre autres par des organisations LGBTQ+. Dans une capsule vidéo publiée sur ce site, on nous présente une fille trans de 14 ans, autrement dit un garçon, qui explique être une fille, notamment par le fait qu'il aime dessiner des sirènes. Cette semaine, Radio-Canada nous présente Alexis, un ex-culturiste qui explique son sentiment d'être une femme par le fait d'avoir toujours été attiré par les jouets, le maquillage et les vêtements féminins. Alexis, devenu femme, donne des conférences devant des jeunes du secondaire. A-t-on fait tout ce chemin de lutte contre les stéréotypes pour en arriver là? Plutôt que de brouiller la distinction entre les sexes, le rôle de l'école n'est-il pas de faire en sorte que les garçons se sentent à l'aise de pratiquer des activités traditionnellement assignées aux filles? Et inversement, comment les enseignants devront-ils surfer sur ce paradoxe qui consiste d'une part à lutter contre les stéréotypes comme le prévoit la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autre part à aller dans le sens de la reconnaissance de l'identité de genre qui s'appuie en grande partie sur l'acceptation des stéréotypes? Nous sommes de nombreux parents à contester le cours d'éthique et culture religieuse qui cantonne les enfants dans des appartenances religieuses. Allons-nous faire face avec le cours d'éducation à la sexualité à une nouvelle idéologie encore plus intrusive qui nie les sexes? J'appelle le ministre de l'Éducation à s'assurer que le cours soit à l'abri de telles dérives. C'est donc l'opinion de Nadia Elmabrouk, professeure d'informatique à l'Université de Montréal. Alors, dans la section plein air de la presse, un circuit navigable à venir sur la rivière des Mille-Îles, c'est Marie Tison qui signe le texte. Les amateurs de tortues, de rats musqués, de grands hérons et de wawarons pourront recommencer à louer des embarcations au parc de la rivière des Mille-Îles dès samedi pour aller rendre visite à ces sympathiques bestioles. Les pagayeurs ont une autre raison de se réjouir. Le parc de la rivière des Mille-Îles travaille sur un projet de circuit navigable qui leur permettra de louer une embarcation à un endroit et de la laisser à un autre centre de location, puis de retourner au point de départ à bord d'une petite navette nautique électrique. Ce sera comme un système de bixi sur la rivière, lance Luc Ménard, directeur général d'Éco-Nature, l'organisme gestionnaire du parc de la rivière des Mille-Îles. La navette permettra également aux non-pagayeurs de parcourir la rivière et aux cyclistes de passer d'une rive à l'autre avec leur monture. M. Ménard affirme toutefois que le projet est encore en gestation. Une analyse de faisabilité a été faite il y a 2 ans, note-t-il. On a commencé les investissements, mais ce n'est pas un projet qui est encore complètement attaché. On est en train de finaliser le plan d'affaires. Le projet n'a pas encore de nom définitif. Pour l'instant, on parle d'un circuit de transport récréatif et utilitaire, une appellation qui manque un peu de poésie. L'idée, c'est d'avoir des infrastructures d'accueil de 2 montagnes à Terrebonne, soit des quais et des points satellites de services de location. C'est une partie du projet. L'autre partie qu'on aligne pour 2020 serait de faire le lien entre ces différents points avec un petit service de navette électrique, dit Luc Ménard, directeur général d'Éco-Nature. Le projet ne sort pas de nulle part. C'est une idée qui avait été amenée par Jean Lauzon, cofondateur d'Éco-Nature et du parc de la rivière des Mille-Îles, note M. Ménard. Ça fait plusieurs années que c'est quelque chose qui mijote, mais là, on tente de concrétiser cette idée-là. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi 9 mai. Ici Hélène Denis qui vous donne rendez-vous dans quelques minutes à l'émission Les Paractualités. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté. Vous serez là pour Les Paractualités. Puis on se retrouve aussi la semaine prochaine pour Le quotidien des quotidiens. À bientôt!